Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotech
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Philippe Joutard, ancien recteur, professeur d'histoire à l'Université de Provence et à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste du protestantisme. Votre dernier livre, Histoire et mémoire, conflits et alliances, qui vient de paraître aux éditions de la Découverte, revient sur les liens souvent compliqués entre mémoire et histoire. Tout d'abord, Philippe Joutard, à quand remonte en France ce que vous appelez vous-même l'invasion mémorielle ?
De façon extrêmement précise, on peut la dater de la décennie 70-80. Si on veut quelques dates, par exemple en 1975, un livre qui a eu un énorme succès, de Jacques Elias, Le cheval l'orgueil. Et c'est d'ailleurs l'époque, si l'on remarque, où affleure la question de la Shoah, et alors que jusqu'à présent c'était confondu avec l'ensemble des problèmes de la Seconde Guerre mondiale. C'était en quelque sorte, non pas occulté, mais tout au moins mélangé dans l'indifférence. Ça apparaît très fortement. Et ces deux phénomènes-là, une sorte de goût pour les traditions, le monde paysan, le monde que nous avons perdu. Et puis d'autre part, l'arrivée de ce drame effroyable de la Seconde Guerre mondiale qui lance, si l'on peut dire, le règne de la mémoire généralisée.
Vous évoquez dans votre livre le travail notamment de Pierre Nora, les lieux de mémoire. Quelle influence ? Est-ce qu'il a eu une influence, on peut dire, là-dessus ?
Ben, d'une part, les lieux de mémoire, c'est déjà une expression de ce règne mémoriel. C'est d'ailleurs Pierre Nora le premier qui, en tant qu'historien, a détecté en 1978, dans un article d'un ouvrage collectif, La Nouvelle Histoire, ce règne de la mémoire. Et puis, à cette époque-là, il a créé un séminaire et il a donc, dans ce séminaire, élaboré les lieux de mémoire qui, effectivement, vous avez raison, après avoir été, en quelque sorte, l'expression de ce règne de la mémoire, a contribué à lui donner un grand succès, ne serait-ce que l'expression « lieu de mémoire » qui est apparu dans le dictionnaire Le Petit Robert, il y a le dernier Petit Robert, on vient d'en parler, a apparu en 1993. On voit l'expression « lieu de mémoire » qui apparaît, ce qui montre bien qu'après lui, il y a une grosse influence en effet de ce phénomène. Et d'ailleurs, le succès même du livre, pour un gros livre, en plusieurs volumes, est la preuve de cette influence de son travail.
Et l'engouement du public pour ces thématiques.
Exactement, l'engouement du public pour ces thématiques qui fait que maintenant, même quand il s'agit de l'histoire au sens précis du terme, on parle de mémoire. Tout rapport au passé maintenant est devenu mémoire, même quand il y a une sorte de travail scientifique.
Alors, j'aimerais qu'on revienne avec vous précisément sur les manifestations de cette donc, invasion mémorielle. C'est quoi ? C'est la multiplication des commémorations, des anniversaires ?
Oui, c'est en effet le goût qui est déjà assez français, mais qu'on trouve d'ailleurs à l'étranger aussi. Car le phénomène, je tiens à le dire, n'est pas simplement français. On trouverait des phénomènes du même genre dans tous les pays occidentaux, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Donc, il s'agit de la commémoration, ça c'est un premier point. Il s'agit de l'énorme succès des phénomènes de patrimoine. Pensez, et ça ne se dément pas aujourd'hui, encore au succès au mois de septembre des Journées du patrimoine. Cela se manifeste aussi par l'affleurement de toute une série de petits musées de culture populaire autour du monde, encore une fois, que nous avons perdu, c'est-à-dire, par exemple, sur l'artisanat, par exemple aussi sur les mines, même le monde industriel, le monde paysan. Et ça se manifeste aussi par l'intérêt sur un certain nombre d'événements dans lesquels on insiste beaucoup, par exemple, justement, la Seconde Guerre mondiale, les drames de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, il y a une chose qui est assez complexe, je crois. Vous dites, notamment dans votre livre, qu'en Amérique du Nord, par exemple, cette approche mémorielle est particulièrement privilégiée. C'est-à-dire qu'une approche du passé plus du côté de la mémoire que de l'histoire, en France, jusqu'à maintenant, ce n'était pas vraiment le cas.
Exactement. J'ai fait une analyse de ce qu'on appelle les romans nationaux, c'est-à-dire ce qui crée en quelque sorte le grand récit fondateur. Eh bien, dès le départ, il y a une différence. Dès le départ, les Américains ont toujours vu ce grand roman comme un rapport affectif, direct, car c'est ça la mémoire, avec leur passé. D'ailleurs, la preuve, c'est que le terme par excellence des Américains, c'est le mémorial. On l'a célébré d'ailleurs lundi dernier, le Memorial Day. Au contraire, en France, on se targuait de faire de l'histoire, de ne pas faire de la mémoire, c'est-à-dire d'avoir une approche distanciée, même si c'était souvent très proche de la mémoire. Et donc là, on voit qu'il y a une très grosse différence. Une autre forme que les Américains ont développée depuis très très longtemps, c'est la reconstitution historique, les grandes batailles où on se transforme en soldat. Et c'est à ce point-là une mode que ça s'est petit à petit étendu à l'ensemble des pays occidentaux. Et c'est aussi un des signes en France de ce triomphe de la mémoire, avec par exemple une grande opération qui démarre dans cette année 70, dans cette décennie 70-80, en Vendée, le Puy du Fou, par exemple.
C'est-à-dire que la reconstitution en costume, c'est ça, c'est une manière d'abolir le temps.
D'abolir le temps, voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre une approche mémorielle et une approche historique? Eh bien, une approche mémorielle, elle abolit le temps. C'est le fait que, d'une certaine façon, le passé est présent. Et c'est un passé qui nous est personnel, familial ou de groupe, dans lequel on a un lien donc charnel, sensible, affectif, alors que l'histoire se veut au contraire rétablir la distance historique. Le gros péché en histoire, c'est l'anachronisme, tandis qu'au contraire, la mémoire croit que ce qui s'est passé il y a un siècle, il y a deux siècles, c'est comme si c'était passé hier, et on le sent comme si c'était passé hier.
Vous consacrez également un chapitre aux sociétés mémoire. Qu'est-ce que c'est exactement, Philippe Joutard ?
Eh bien, cette idée est partie du fait qu'il y a des groupes qui, depuis très longtemps, ont fondé leur identité justement sur la mémoire, sur un événement fondateur, souvent dramatique d'ailleurs. Et je donne comme exemple, que je connais bien évidemment, les protestants français, persécutés au temps de Louis XIV, mais aussi tout au long du XVIIIe siècle, et qui, à partir de cette persécution, ont une mémoire très forte, et qui conditionnent leur identité, mais aussi leur attitude. Nous avons inauguré la semaine dernière le Chambon-sur-Lignon, pays protestant, eh bien c'est en fonction de cette mémoire. Mais il y a d'autres exemples.
C'est-à-dire que cette mémoire, elle ne peut se émerger qu'à partir d'un événement dramatique ?
La plupart du temps, oui. À partir d'un événement dans lequel les gens ont eu un effort de destruction et ont résisté. Car, attention, dans cette mémoire identitaire, les gens à la fois se voit comme victime, mais aussi comme résistant au drame qui leur arrive. Alors, il y a un autre exemple en France, c'est évidemment tout à fait inverse, mais du même genre, c'est la Vendée. Il y a l'exemple évidemment des Arméniens, par exemple, et d'une certaine façon, et le monde juif, à partir de la Shoah, s'est constitué aussi, tout à fait normalement, en groupe mémoire.
C'est-à-dire que là, en gros, la religion joue aussi un rôle fondamental pour la constitution. C'est nécessaire ou...
Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, bien entendu. Mais il y a aussi, et là vous posez un problème tout à fait intéressant, c'est le fait qu'il y a une forme de mémoire alors évidente, c'est la mémoire religieuse, qui est d'ailleurs très prégnante dans les trois religions monothéistes, puisque ces trois religions monothéistes sont fondées sur la mémoire, et Évidemment, on se souvient dans le monde juif de Sakor, hein, souviens-toi.
D'accord. Alors, ce qui pourrait relier les deux, et ce à quoi vous consacrez également une grande partie de votre livre, c'est l'histoire orale.
Absolument.
Alors, en Amérique du Nord, c'est également une pratique extrêmement usitée qui remonte à assez loin, un peu moins en France.
Tout à fait. En gros, si vous voulez, l'histoire orale, on pourrait dire qu'à la limite, au temps où il n'y avait pas beaucoup d'écrits, on faisait de l'histoire orale. Mmh. Mais quand même, au sens moderne du terme, l'histoire américaine fait de l'histoire orale. Le premier moment, c'est très intéressant, c'est entre les deux guerres, au moment de la crise économique du Roosevelt, du New Deal. Roosevelt, pour donner du travail aux intellectuels, aux écrivains, aux étudiants, décide de faire une grande enquête, hein, sur les laissés pour compte de l'histoire. Et d'abord, les descendants d'esclaves, les petits blancs. Et comme ça, il y a un certain nombre de gens, il n'y avait pas de magnétophone à ce moment-là, mais qui vont dans les campagnes et qui recueillent les témoignages des uns et des autres. Et il y a des grands écrivains comme Richard Wright, par exemple, ou même Steinbeck s'est intéressé tout à fait à cette histoire orale. Et ensuite, dès que le magnétophone intervient, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, les Américains systématiquement enregistrent à la fois les politiques, les grands notables, mais aussi des gens modestes. Et évidemment, le témoignage oral, c'est à la fois, puisqu'il s'agit de ces souvenirs, un phénomène de mémoire, mais on appelle ça l'histoire orale parce qu'il y a la volonté de s'en servir avec une distance, de faire une critique historique par rapport à ses sources. Et effectivement, la France a mis beaucoup de temps à faire de l'histoire orale. Et un des secteurs, justement, où, en revanche, le phénomène a été fait très vite, c'est dans le cas de la Shoah. Et pour une raison extrêmement claire, c'est que cette expérience épouvantable, cette expérience dramatique, ce ne sont pas les papiers. Mm-hmm. La plupart du temps, malheureusement, les papiers, c'est de l'autre côté, du côté des nazis. Mm-hmm. Hein. Donc, pour avoir, en quelque sorte, le véritable vécu, hein, il faut interroger les survivants et il faut interroger aussi ceux qui, en quelque sorte, en ont été les victimes indirectes, collatérales, par exemple les enfants des survivants, mmh. hein, les enfants cachés. Plus largement, le phénomène de la résistance civile, hein, l'accueil des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est fait à la fois par les réseaux juifs et par les réseaux non-juifs, eh bien, comme c'est une histoire clandestine, c'est une histoire qui a laissé forcément le moins de traces écrites possibles. Et pour arriver à avoir une idée complète, c'est par le témoignage oral qu'on peut arriver à pouvoir la reconstituer. Et on peut d'autant plus arriver à la reconstituer qu'on le remarque. Comme c'était une résistance en quelque sorte qui ne faisait pas de bruit, une résistance qui n'est pas spectaculaire, très souvent, beaucoup de gens qui l'ont pratiqué, hein, ont dit que ça ne méritait pas mmh. l'attention. Et donc, ils n'ont pas fait de mémoire. Et donc, il a fallu systématiquement pouvoir la reconstituer en allant chercher les témoins.
Un des moments où justement la question du témoignage va émerger de manière publique, c'est le procès Eichmann. Est-ce que ça change du coup aussi le rapport à l'histoire ? En tout cas, est-ce que l'historien va écouter différemment la parole du témoin à partir de ce moment-là ?
Alors, dans le cas précis, effectivement, de la Shoah, et Annette Wieworka a fait là-dessus un livre que je recommande, « L'ère du témoin », enfin d'ailleurs qui est assez connu. Effectivement, on s'est aperçu qu'à ce moment-là qu'il était extrêmement important, en quelque sorte, d'avoir le témoignage de ceux hein, qui ont vécu, puisque dans le procès Eichmann, il y a eu évidemment tout un procès fait à partir de documents, hein, comme se doit en matière de justice, hein, mais aussi à partir des témoins. Et ça correspond d'ailleurs à l'époque où, au moins, pas tellement en France, mais au moins dans le reste du monde, en particulier aux États-Unis et en Allemagne, on découvre l'importance hein, dans la Seconde Guerre mondiale du phénomène. Alors, est-ce que ça a changé le regard. Oui et non. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, il y avait déjà eu l'appel à des témoins avant. Il faut penser évidemment à la Première Guerre mondiale, où il y a eu aussi un appel à des témoins. Oui, parce que là, ça a été en quelque sorte légitimé.
Mmh. Oui, légitimé par la justice.
Légitimé par la justice, exactement. Légitimé par la justice. Et alors, si on remarque les grands procès qui ont suivi, en France même, hein, on pense évidemment au procès de Klaus Barbie, eh bien, là encore, on voit apparaître les témoins. Mais je dois dire que, avant même qu'il y ait la justice, hein, un certain nombre d'historiens avaient parfaitement conscience qu'il fallait évidemment ne pas négliger du tout les sources écrites, ne serait-ce que parce que pour avoir le point de vue de l'autre côté des nazis, mais qu'il était extrêmement important d'avoir le point de vue des témoins. Et vous le savez aussi bien que moi, il y a quelque sorte le point d'orgue, l'achèvement de ce mouvement. C'est ce magnifique film de Klaus Hanselmann, Shoah, où justement, de façon très provocatrice, volontairement, Hanselmann s'interdit de faire appel à tout document historique et veut fonder uniquement tout son travail sur le récit de ceux qui racontent. Non pas d'ailleurs, dit-il, leurs souvenirs, mais le récit, le témoignage.
Vous êtes également, Philippe Joutard, membre de la commission enseignement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Comment aujourd'hui l'enseignement de l'histoire intègre la question du témoignage ?
Si vous voulez, alors on peut prendre deux choses. D'une part, pour les questions sensibles. Et il faut le dire, la Shoah fait partie de ces questions sensibles, qui est au programme d'ailleurs maintenant dans tous les ordres d'enseignement. Eh bien, très souvent, alors attention, l'écoute du témoin ne dispense en aucune façon une étude systématique, organisée, de la solution finale dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, en le replaçant dans son contexte de longue, moyenne et courte durée. Mais une fois qu'on a fait cela, pour que les élèves comprennent ce qui fait la spécificité, le caractère unique, du point de vue historique, je ne parle pas d'un point de vue philosophique, c'est évidemment d'écouter ce que raconte, comment il le raconte, en particulier ce phénomène épouvantable dans lequel on fait en quelque sorte des victimes leurs propres bourreaux, car c'est aussi ça une des caractères uniques de la Shoah, la manière dont tout est fait pour que les gens, en quelque sorte, soient condamnés à l'humiliation permanente. Et bien entendu, c'est par ce phénomène des témoins que les élèves peuvent arriver à comprendre des réalités sensibles. Mais attention, il faut ne pas se limiter là, et après, bien entendu, reprendre la parole et les situer dans le cadre général. Je crois que c'est très important que la mémoire doit être en étroite corrélation avec l'histoire, mais l'histoire doit toujours savoir prendre, non pas le dessus, mais prendre la distance nécessaire. Sinon, ça risque d'être très fragile comme effet.
Et qu'en sera-t-il demain, après la disparition des derniers témoins ? C'est-à-dire, ils deviendront histoire ?
Oui, attention. D'abord, parce que les moyens modernes de communication nous donnent la chance extraordinaire d'avoir un ensemble de récits reproduits. L'Institut national de l'audiovisuel a fait il y a quelques années avec Dominique Missica une très belle opération. La Fondation de mémoire pour la Shoah a encouragé, d'ailleurs a aidé beaucoup de recueils de témoignages. Donc les témoignages, nous les avons. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a aussi les témoignages littéraires. Le plus connu, évidemment, c'est Primo Levi, mais il y a aussi toute une série de journaux qui sont des phénomènes de mémoire. Hélène Baer, Charlotte Delbault, enfin, vous voyez, donc il y a toute une série de témoignages qui vont subsister. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet parce que, à toutes les époques, il y a en quelque sorte des témoins, et à plus forte raison dans cette période où, heureusement, depuis maintenant un demi-siècle, on a accumulé une masse de témoignages, et je crois même que ce sera assez extraordinaire de pouvoir voir des gens qui auront disparu et de pouvoir alors comprendre que ce passé peut toujours être à son présent.
J'aimerais voir votre regard personnel, Philippe Joutard, sur cet antagonisme. Vous êtes à la fois historien, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes membre de la commission enseignement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Comment vous le gérez-vous, cet antagonisme histoire et mémoire ?
Ben, si vous voulez, j'ai fait le pari, et tout mon livre est fondé là-dessus, sur l'idée que même si à un certain moment, les deux ont paru et se sont concurrencés, même si souvent... les historiens sont furieux parce qu'ils ont un sentiment que les témoins les remplacent, qu'il suffit d'avoir des témoins pour faire l'histoire. Et inversement, les témoins sont souvent aussi mécontents de voir les historiens, en quelque sorte, sembler les juger. J'ai fait le pari qu'au contraire, il faut que les deux s'allient. Pourquoi ? Parce que d'abord, la mémoire instruit l'histoire. Ne nous faisons pas d'illusions, si nous avons pris tel ou tel sujet, c'est en fonction de notre mémoire personnelle, et il faut l'avouer. Et puis, deuxième point, la mémoire nous permet de saisir des choses qu'on ne pourra jamais saisir par des documents froids, par des documents d'archives. Donc, l'historien a absolument besoin de la mémoire, mais inversement, les mémoires ont besoin de l'histoire. Pourquoi ? Parce que la mémoire, et même dans le cas que nous sommes en train de parler, est avant tout fondée sur l'oubli, est avant tout une sélection. Et on l'a bien vu d'ailleurs dans l'histoire de la solution finale. Et l'histoire, le rôle de l'histoire, c'est de combattre l'oubli. Par conséquent, la meilleure garantie de la mémoire, c'est les historiens. Et je ferai remarquer que celui qui a le plus combattu et avec le plus d'efficacité le négationnisme, c'est un grand historien, c'est Pierre Vidal-Naquet. Donc d'une part, la mémoire conforte, l'histoire conforte la mémoire. Et en deuxième lieu, il ne faut pas se nier qu'il y a de temps en temps des concurrences de mémoire, des mémoires affrontées. Or, je crois que l'histoire peut apaiser, peut en quelque sorte permettre aux mémoires affrontées de se comprendre, voyez, en redonnant le contexte historique et en montrant que, d'une certaine façon, chacun obéit à sa logique, qui a, entre guillemets, une certaine vérité, mais une vérité partielle, et les mettre en rapport. C'est très clair, par exemple, pour un autre sujet sensible comme la guerre d'Algérie. Je crois que dans la guerre d'Algérie, où les mémoires s'affrontent encore de façon plus complexe, plus nombreuse, eh bien, je pense que les historiens peuvent permettre à ces mémoires de se comprendre, de se respecter. Certes, elles sont chacune dans leur ligne, mais elles se respectent.
Eh bien, je vous remercie, Philippe Joutard, et j'invite donc tous les auditeurs qui ont envie de se plonger sur cette question, donc histoire et mémoire, conflit et alliance. Votre dernier livre vient de paraître aux éditions La Découverte. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.